France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
La technique et comment les philosophes la pensent. C'est notre sujet cette semaine. Ce matin, la continuité entre art et artisanat, l'intuition des Grecs anciens. En voilà une invention moderne, la séparation, parfois jusqu'à la caricature, entre d'un côté les métiers d'artisanat, les techniques d'orfèvrerie, de menuiserie, de tapisserie, de costumier et tant d'autres, et comme sur une autre rive, l'art véritable, jugé digne de ce nom. C'est d'autant plus troublant que l'une des sources de l'Occident, la source grecque, ne connaissait pas la netteté de cette séparation. Nous allons vérifier ce point en détail avec les spécialistes invités ce matin, mais il semble que le mot techné en grec ait été celui correspondant à ars en latin, regroupant de très nombreuses activités. Ensuite, certes, selon les auteurs, des jugements variables étaient portés sur tous ces arts ou ces techniques, et nous allons voir comment Platon et Aristote réfléchissaient à tout cela. Mais la démarcation claire entre art et artisanat n'était pas une donnée de départ pour un grec de l'Antiquité. Rien à voir avec notre époque, c'est comme si de nos jours il fallait des événements hors normes, comme l'incendie de Notre-Dame de Paris puis sa restauration, pour faire jour sur ces métiers minutieux, nourris de tant de culture, de savoir-faire et de goût, sans d'ailleurs en général rompre avec l'anonymat qui les entoure.
À la croisée des transepts, c'est un immense échafaudage de 600 tonnes qui va être monté pour soutenir la flèche et permettre de reconstruire les voûtes détruites. Un travail qui commence ici, sur le parvis de la cathédrale, dans l'atelier des sculpteurs.
À partir de ces deux anges, on a pu faire des tirages, des moules, et du coup recréer les deux manquants à partir d'archives et de photos.
Sur les flancs, les maçons posent les dernières pierres des arcs de la voûte gothique.
On va essayer de faire quelque chose, hein. Sur les dernières, en fait, on va mettre la colle au milieu directement.
Et pour souder ces blocs de pierre entre eux, on utilise du plomb.
Si les joints étaient faits au mortier, à chaque fois qu'il y aurait des mouvements, en fait, le mortier se désagrégerait. Et au bout d'un moment, les blocs de pierre finiraient par se déboîter et se toucher les uns les autres. Parce que le mortier n'a pas la souplesse du plomb. Le plomb va s'écraser et il va accuser les mouvements de dilatation.
C'est surtout une étape de reconstruction. C'est-à-dire que ce sont les pierres qui, désormais, vont faire partie de la cathédrale pendant 400, 500, 600 ans, on ne sait pas. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement satisfaisant.
Et puis, que penser de ces artistes contemporains dont les œuvres valent des millions et qui ne réalisent pas eux-mêmes ces œuvres ?
Like Andy Warhol, Jeff Koons has a factory of sorts.
Comme Andy Warhol, Jeff Koons dispose d'une sorte d'usine avec une chaîne de montage, des peintres qui suivent méticuleusement ses instructions et des douzaines d'assistants numériques, de sculpteurs et d'artisans tout autour du monde qui aident à fabriquer ses œuvres complexes.
You'll notice Jeff Koons isn't doing the sculpting or painting.
Vous remarquerez que Jeff Koons ne sculpte pas et ne peint pas. Il a les idées et fixe les standards, mais les artisans font le travail, ce qui a provoqué des critiques.
It's a legitimate criticism if you look at art in a way that you're.
C'est une critique légitime si vous considérez qu'en art, tout doit être fait par les artistes eux-mêmes. Mais ça limiterait beaucoup ce qu'on pourrait faire pendant une vie si on était responsable de tout. C'est comme la production de cette émission. Si vous deviez être responsable de l'éclairage et le reste, si vous deviez être responsable de tout, combien d'émissions pourriez-vous faire ? J'ai dessiné, travaillé sur les systèmes, les procédés, pour qu'à la fin de la journée, c'est comme si chaque marque avait été faite par moi.
C'est gentil de penser aux producteurs d'émissions et de documentaires, mais précisément, ni la radio ni la télévision ne se prennent pour des arts avec la solennité attachée aux créations de Jeff Koons. Quant aux grands cinéastes très entourés, à l'instar des grands maîtres de la peinture et de la sculpture à la tête d'impressionnants ateliers depuis la Renaissance, le plus souvent, c'est la maîtrise technique qui les a imposés et ils continuent de mettre la main à la pâte. Bonjour Fabienne Baghdasarian.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence en philosophie à l'Université de Rennes, spécialiste des penseurs de la Grèce antique et singulièrement d'Aristote, philosophe qui a vécu en plein IVe siècle avant notre ère. Et bonjour Nicolas Lemaire.
Bonjour.
Vous êtes vous aussi maître de conférence en philosophie à l'Université de Brest, pour votre part, et spécialiste de philosophie grecque ancienne, notamment de Platon, qui avait, je le rappelle, 44 ans de plus qu'Aristote, avait donc vécu à la charnière du 5e et du 4e siècle avant notre ère. Alors, première question à vous deux. Nous nous plongeons dans le monde antique grec. Nous parlons d'art et d'artisanat, de leur continuité. Pour aborder cet enjeu, je voudrais vous demander tout simplement ce que signifie en grec le mot techné. Fabienne Baghdasarian.
Alors la techné, ce serait une capacité à produire. Souvent le terme de techné peut fonctionner de pair avec celui de poiesis en grec, qui est la production. Une capacité à produire un objet, un artefact, et de le produire en vertu d'une maîtrise rationnelle d'un certain nombre de processus, comment choisir une matière, comment la travailler, quels instruments utiliser, quel rythme dans la production suivre. Et donc, il y a à la fois cette capacité à produire et quelque chose de l'ordre de l'expertise rationalisée de la production.
Et comment vous, Nicolas Lemaire, définiriez le vaste monde qui va nous occuper ce matin, constitué par la techné en grec ?
Moi, je trouve que la définition, la caractérisation que Fabienne vient de donner est tout à fait pertinente. J'insisterai peut-être sur la dimension épistémologique, c'est-à-dire que techné renvoie véritablement à un savoir, à une expertise, et il y a une relative indistinction entre techné et épistémé jusqu'à un niveau assez tardif dans le grec. Donc il y a bien quelque chose qui relève de la production,
du savoir-faire,
du côté de l'artisanat, voilà le savoir-faire. Et en même temps, c'est par ce terme et par les pratiques auxquelles il renvoie que la question du savoir s'impose comme une question qui intéresse les êtres humains jusqu'à un niveau assez avancé de l'histoire.
Alors prolongeons un peu les questions de mots et tous les enjeux derrière. Donc quand un grec dit qu'une activité technique fait partie de ce qu'il appelle parfois la musikē, ça veut dire c'est inspiré par les muses, c'est ça? Et donc au fond, il y a peut-être des technés qui le... Enfin, on dirait d'ailleurs pas des technés, on dirait des technailles, ouais. Qui le sont plus ou moins. Mais c'est pas son problème. Le grec ancien est un personnage pour lequel, a priori, il n'y a pas de séparation entre un bon orfèvre, un bon menuisier et un peintre. Alors j'ai aussi la question de la musique derrière, qui est encore un autre sujet. Comment voit-il ce monde des productions, puisque c'est un des mots que vous avez employé? Alors Nicolas Lemaire, on va faire dans l'autre sens, et puis ensuite Fabienne Baghdasarian.
Effectivement, vous l'avez dit en introduction, la difficulté pour nous, quand on pense ces choses-là, c'est qu'on est configuré par des distinctions terminologiques qui sont latines et qui en fait ne renvoient à rien dans le grec ancien de Platon, d'Aristote et de leurs contemporains. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas une certaine conscience de nuances, de distinctions qui pouvaient se jouer au sein d'un même terme. Effectivement, l'idée de musikē, comme tous les mots en ikē, ikos, renvoie à un savoir-faire technique.
Aussi.
Voilà, c'est le marqueur de quelque chose qui est pensé comme une techné. Musikē, effectivement, c'est l'ensemble des arts, des techniques qui relèvent des muses. C'est-à-dire le chant ou la poésie, pour autant que c'est un discours en maître, c'est-à-dire qui obéit à un schéma métrique qui fait qu'il va être rythmé.
Oui.
L'harmonie, pour autant que c'est une poésie qui est chantée, un mélos, elle est aussi chantée dans une certaine tonalité harmonique. Ça peut s'accompagner de chorégraphie, donc dans les arts des muses, il y a aussi évidemment la danse, etc. Donc si on additionne l'ensemble de ces formes d'art, de ce que nous on appellerait des arts, bien on aboutit en fait à ce qu'on appellerait aujourd'hui un art total, et c'était en fait la tragédie grecque.
Mais il n'y a pas cette idée, Fabienne Baghdasarian, que certaines activités qui nécessitent du savoir-faire technique, voilà, j'ai parlé du menuisier, seraient fondamentalement différentes des arts inspirés par les muses, ou quand même, l'idée qu'il y ait des musicailles, des arts inspirés par les muses, créer une certaine distinction entre tous ces métiers artisanaux et artistiques.
Cette distinction, elle peut éventuellement poindre, me semble-t-il, parfois chez Platon. On peut penser au dialogue de Lyon, où finalement Platon met en difficulté Ion pour savoir d'où il tient son inspiration, et la difficulté de la reproductibilité. Mais chez Aristote, en revanche, sa poétique s'appelle la techné poétique, et donc il y a vraiment un ensemble de règles. La petite différence qui pourrait se faire, c'est que il est très conscient, il met souvent l'accent là-dessus, mais je pense que c'est en continuité avec sa conception de la techné en général, sur une forme de talent, d'inventivité, de souplesse du bon poète qui sait comment prendre un matériau qui est le matériau des caractères humains ou de l'histoire pour savoir quoi retrancher, comment s'exprimer. Mais d'inspiration, c'est pas vraiment son problème dans la poétique.
Mais du coup, c'est très intéressant parce que, alors évidemment, c'est difficile de prendre Platon et Aristote comme des exemples de n'importe quelle approche grecque ancienne, puisque précisément, ils ont aussi leur singularité chacun. Donc, il faut qu'on fasse un petit peu attention. Mais disons qu'il y a le fait qu'il y ait, vous l'avez dit d'entrée de jeu, Fabienne Bagdasarian, quelque chose de rationnel. Une maîtrise, j'ai eu l'impression que c'était un peu vers cela que vous tiriez votre première réponse. C'est ça qui est valorisé et c'est ça qui fait que, si j'entends bien, il y a une continuité entre ce que nous appelons les arts et les artisanats.
Oui, c'est qu'on ne peut pas s'improviser poète, ou on ne peut pas s'improviser musicien, pour reprendre une catégorie tranchée qui serait la nôtre par rapport à celle des anciens. Il y a la nécessité d'une maîtrise de la chose, et c'est aussi parfois dans la musique une maîtrise manuelle. Il faut une pratique instrumentale. Il y a des textes d'Aristote sur la question de savoir s'il faut pratiquer soi-même un instrument et jusqu'à quel point. Mais il y a cette nécessité de savoir, de maîtriser un ensemble de règles. La question de mettre la main à la pâte est tout de même présente chez Aristote, on y reviendra peut-être. Et puis il y a aussi une dimension rationnelle du point de vue du spectateur qui doit être éduqué à recevoir, à juger correctement les produits de l'art qu'il voit ou qu'il entend. Et là aussi, il y a de la rationalité du point de vue du spectateur.
Est-ce que c'est sur ce point, peut-être, Nicolas Lemaire, que Platon marque un peu, sinon sa différence, du moins un certain scepticisme, c'est-à-dire est-ce que la rationalité des arts et des artisanats, bon, je ne dis pas du tout, enfin j'ai essayé de comprendre en préparant cette émission, j'ai compris que pour lui aussi il y avait des continuités, mais il semble plus inquiet sur ce que les spécialistes appellent la valeur épistémique, vous avez prononcé vous-même ce mot des arts, comme si, attention, c'est quand même une moindre rationalité. Et d'ailleurs, il est un peu plus sévère avec certains arts, peut-être qu'Aristote et que, si j'ose dire, le grec moyen. Est-ce que ça va comme introduction ou j'ai pris des sabots trop gros ?
Non, les sabots sont tout à fait adaptés. Alors, avant de vous répondre, ou pour mieux vous répondre, je pense que on peut faire une précision importante et intéressante dans le cadre de la pensée platonicienne pour continuer à répondre à la question que vous m'aviez posée tout à l'heure. Il y a un passage célèbre du banquet de Platon au début du discours de Diotime, donc la prêtresse de Mantinée qui est censée avoir appris les mystères érotiques à Socrate. Et alors je fais l'économie d'une explication de l'ensemble du passage, mais il y a un moment où il est question du terme grec poiesis. Alors, je ne vais pas rentrer dans du grec. Voilà, fabrication, en fait, on parle de production depuis tout à l'heure, c'est la traduction de ce terme. C'est intéressant parce qu'on a aussi parlé de poète ou de poésie, et en fait, c'est directement issu de ce terme-là. Donc, je pense que pour clarifier un petit peu les enjeux terminologiques, parce qu'il y a aussi un passage du grec vers le français de ce point de vue.
Via le latin, souvent.
Via le latin. Il faut simplement comprendre comment Platon, en grec, est conscient ou nous rend conscient du jeu que le grec, que la langue grecque opère autour de ces termes-là. Et en fait, poiesis, ça renvoie, Socrate le dit à ce moment du banquet, ça veut dire tout ce qui consiste à produire, à faire exister quelque chose, hein, faire que quelque chose passe du non-être à l'être. Mais, il le dit, donc ça renvoie à tous les types d'artisanat, de démiurgie, hein, démiurgos, c'est l'artisan, on y reviendra peut-être sur ce terme qui est intéressant. Mais il dit, en fait, le grec a quand même, dans certains contextes, réservé le terme de poiétès, donc de ce que nous on dirait poète, un certain type de producteur. Bien que, en général, poiétès puisse signifier un producteur, un artisan, eh bien, dans certains contextes, on va dire que est poiétès simplement celui qui produit, il dit, en relation avec le maître et l'harmonie. Donc, c'est-à-dire qu'il produit des œuvres qui sont déterminées comme musicales. Mais il y a une espèce de plasticité du vocabulaire en grec qui dit le fait de produire, de créer, qui fait qu'en fait, il y a une nuance entre ce que nous, on appellerait art et l'artisanat, plus largement, la production. Mais cette nuance, elle s'exprime malgré tout avec le même terme ou avec le même ensemble de termes.
Et en plus, les poètes... C'est un bon sujet pour comprendre que Platon est méfiant. Il y a certains types de poésie, pas toutes, mais la poésie tragique, dont il considère que la bienfaisance politique est plus que douteuse. Et dès lors, je renouvelle ma question en la posant un peu autrement. Est-ce que du point de vue de deux choses qui sont très obsédantes chez Platon et à juste titre, qu'est-ce que c'est que la philosophie, qu'est-ce que c'est que le vrai qu'elle est censée permettre d'atteindre, et qu'est-ce que c'est que le bien politique, ces deux questions le conduisent-ils à mettre un peu... des accents négatifs sur certains arts et artisanats.
Oui, tout à fait. Alors, pour des raisons qui seraient intéressantes de comparer avec l'approche aristotélicienne. C'est-à-dire que la poésie, pour Platon, éduque. Hein. C'est par la poésie qu'on s'éduque. Donc, il n'y a pas une mise en retrait ou une mise à l'écart de la poésie. Je dirais même au contraire, et c'est précisément la raison pour laquelle il faut aussi poser les critères qui permettent de distinguer une poésie utile d'une poésie, non pas seulement inutile, mais dangereuse. Mais éduquer, ou les façons dont la poésie, dès le tout jeune âge, hein, ce sont même les fables, les histoires qu'on raconte aux jeunes enfants, au début du livre 2 de la République, enfin... milieu du livre de la République, quand on se met à parler de poésie, on parle d'abord de cette nourriture qui va façonner les opinions sur lesquelles l'âme va élaborer ses jugements de valeur, sa conception de la vie, du bonheur, etc. Bien, cette poésie-là, elle éduque, mais elle n'enseigne pas. Hein. Donc il y a une nuance, c'est-à-dire que l'acquisition du savoir, en quoi consiste en fait la démarche philosophique pour Platon, c'est pas quelque chose qui consiste... Enfin, ça se joue pas, si vous voulez, sur le même niveau épistémique que la façon dont la poésie nous forme, nous informe et configure.
Épistémique, ça apporte un moindre savoir. Voilà, j'essaie de... Parce qu'on a mis tellement de mots, là, je voudrais
autant pour moi.
Faire attention. Non, pas, c'est pas du tout. C'est juste, c'est normal que les auditeurs aient droit, je dirais, à leur traduction à chaque moment, parce que c'est... Il faut qu'on entre dans un univers qui n'est plus tout à fait le nôtre. Alors, je précise à ce sujet que nous avons fait, il y a à peu près un an, une série sur art et pouvoir. Et l'un des épisodes était consacré à Platon et à la poésie. Et là, voilà, Dimitri Elmur et Laetitia Mousse, d'autres collègues de vous-même, nous avaient expliqué quel type de poésie était un peu problématique pour la cité du point de vue de Platon. Mais là, nous parlons des arts et des artisanats en général. Et diriez-vous, Fabienne Bagdasarian, que Aristote, lui, est peut-être spontanément moins méfiant, moins sévère que Platon à l'égard de toutes ces choses?
Il est spontanément moins méfiant en général, très certainement. On ne trouve pas dans sa politique, de censure claire ou ce qui pourrait passer pour une censure chez Platon. Il y a une attention à la fin de la politique telle qu'on la lit aujourd'hui à l'éducation des citoyens et au fait de leur donner, les éduquer dans un certain nombre d'arts qu'on pourrait appeler un peu à tort libéraux, hein, des arts qui vont avec la vie de citoyen qui est une vie de temps libre, une vie de liberté. Et la musique en fait partie. Il y a quand même une certaine attention dans la continuité des textes qu'évoquait Nicolas Lemaire à des rythmes, à des mélodies, à des harmonies qui sont moins propices à un citoyen libre, c'est-à-dire une attention à la manière dont les arts artistiques agissent sur nos passions, en fait, hein, et peuvent encourager certaines passions ou les calmer, les structurer. Les mesurer. Et donc, on a cette idée que la musique est parfois une représentation mimétique des caractères.
Oui.
Et donc, il y a une attention à l'éducation musicale au sens général, qui est une façon pour Aristote, me semble-t-il, de s'inscrire dans les pas de Platon. Mais c'est quand même réduit à la portion congrue, tout cela, chez Aristote. Et il me semble qu'il est plus attentif à éduquer le spectateur et à structurer la production du poète qu'à donner au spectateur une éducation qui lui permet d'apprécier correctement ce qu'il voit.
Alors, nous allons entrer un peu dans les textes. On va commencer par Platon, qui était plus ancien qu'Aristote, donc il faut commencer par cette œuvre-là pour voir aussi comment Aristote lui répond. Dans La République, ce dialogue du milieu de vie de Platon, il y en a eu d'autres plus tard, on peut toujours réfléchir à la manière dont les suivants ont amendé éventuellement certains aspects de la République, la si mal nommée République, c'est un mot latin, on devrait le nommer de la cité, n'est-ce pas, Nicolas Lemaire ?
Politéia, ouais, oui. Constitution, de... régime politique. Oui.
Dans le livre 10, il y a un passage très important sur les arts et les artisanats, avec une tentative de catégorisation. C'est d'ailleurs juste avant le texte où il va évoquer certains méfaits de certaines sortes de poésie, juste avant. Voici donc ce dialogue, c'est un dialogue, ça c'est très agréable en radio. Socrate s'entretient avec Glaucon.
Le peintre, affirmons-nous, peindra des rennes ou un mort.
Oui.
Mais ceux qui les fabriquent sont le cordonnier et le forgeron.
Oui, certainement.
Eh bien, celui qui s'entend à dire comment doivent être les rennes et le mort, est-ce le peintre ? N'est-ce pas plutôt, non pas même celui qui les a fabriqués, à savoir le forgeron ou le sellier, mais celui-là seul qui sait en faire l'usage, à savoir le spécialiste du cheval ?
Si, c'est tout à fait vrai.
Eh bien, ne devons-nous pas affirmer qu'il en va de même pour toutes les autres choses ? En disant que pour chaque chose, il y a trois arts. Celui qui saura en faire usage, celui qui saura la fabriquer et celui qui saura l'imiter.
Oui.
Or, l'excellence, la beauté, la rectitude de chaque objet, de chaque être vivant, de chaque action, à quoi se rapporte-t-elle, sinon à l'usage pour lequel chacun est fabriqué ou est né naturellement ?
En effet.
Dès lors, à propos du même objet, celui qui le fabrique aura une croyance correcte sur sa beauté ou sa médiocrité, pour autant qu'il sera en rapport avec celui qui sait et qu'il sera contraint d'écouter celui qui sait, tandis que c'est celui qui en fait usage qui aura le savoir.
Glaucon était Riyad Kera et c'est Aloïse Guérin de France Culture qui est Socrate dans cette lecture. Alors, on va s'arrêter là, puis on fera la suite du texte juste après, si vous le voulez bien, Nicolas Lemaire. Oui. Donc là, il y a une classification proposée par Socrate, et Glaucon, comme souvent l'interlocuteur Socrate dans les dialogues de Platon, dit oui, oui, oui. Eh bien, il y a trois types d'art, de technai. Oui. Celui qui... expliquez-moi. Quelles sont ces trois choses et comment ? Il faudrait donner des exemples, je pense.
Oui, tout à fait. Alors, ce texte est intéressant parce qu'il montre que la façon dont Platon mobilise ce thème de la technique, de la techné, est relativement plastique, en fait. Hein. La référence à la technique a une valeur plutôt fonctionnelle chez Platon et il n'y a pas vraiment de définition stable. C'est plutôt quelque chose qui lui sert dans des stratégies argumentatives, etc. Ici, à la différence de Lyon que Fabienne Bagdassarian citait tout à l'heure,
Lyon, c'est un dialogue très précoce, un des tout premiers dialogues de Platon.
On peut supposer, même si c'est difficile de dater précisément, mais c'est un dialogue, oui, on peut supposer plus ancien que la République, donc de jeunesse, comme on dit. Et c'est un dialogue où Socrate discute avec un rhapsode, un récitateur d'Homère qui s'appelle Lyon et qui est assez prétentieux, assez vaniteux et qui a tout un tas de prétentions épistémiques liées à sa technique de rhapsodie, de récitation d'Homère, et que Socrate s'amuse à réfuter en lui montrant qu'en fait, ce qu'il sait faire, il le sait en vertu d'une inspiration et pas d'une technique. En fait, donc, il le sait pas. C'est pas lui qui est, au fond, le sujet de sa propre technicité. Ici, dans ce texte, la stratégie, entre guillemets, de Platon est différente. C'est-à-dire qu'on voit bien, il le dit clairement, la poésie, l'imitation est une technique.
Alors ça, c'est
la production en est une autre et l'usage en est une autre. Donc ce sont des technailles, exactement.
Mais elles ne valent pas toutes de la même façon. Alors celles qui valent le plus sont celles qui sont utiles, c'est l'usage, et celles qui exigent un savoir de fabrication. Est-ce qu'on peut dire ça?
Alors pas exactement. C'est-à-dire que vous employez le mot intéressant, c'est quelles techniques valent.
Oui.
Comment on peut hiérarchiser la valeur de différentes techniques. C'est précisément les techniques qui valent le plus sont celles qui sont dépositaires de la question de la valeur des choses produites par les autres techniques. Donc c'est la technique d'usage, parce que c'est l'usager qui sait ce que vaut la qualité du produit qu'il utilise, dont il fait usage. Par exemple, l'exemple pris par Socrate ici, c'est celui qui a l'art hippique, qui sait monter à cheval, et en fait, celui qui probablement monte à cheval parce qu'il est lui-même dépositaire d'une technique militaire, de la stratégie, etc., qui a des savoirs techniques qui relèvent de l'usage, et c'est lui qui est dépositaire de l'action de la valeur.
C'est-à-dire que
le savoir-faire du menuisier...
C'est une valeur, parce que nous, les choses utiles,
oui.
Il y a tout un débat moderne, est-ce que le beau doit se... La beauté doit se... en art doit se couper de la question de l'utilité. Eh bien, pour un grec, en tout cas pour Platon, s'il y a bien une chose qui donne de la valeur à certaines techniques, artisanales en particulier, pour parler notre langage à nous, c'est l'utilité.
C'est l'utilité, et c'est tout ce qui fait que... dès le départ, enfin, c'est un terme qu'on trouve déjà chez Homère, démiurgos, le terme qu'on traduit par artisan, il est parfaitement ambivalent. Comme on le disait tout à l'heure, c'est un terme qui désigne un savoir. Enfin, la démiurgie, l'artisanat, l'artisan est un sachant, un expert. Et en même temps, sa valorisation comme homme de savoir, elle est précisément liée à l'utilité qu'on attend de son produit.
Oui.
Et donc, c'est un homme de service. Hein. Démiurgos, c'est littéralement celui qui agit pour le démos, celui dont l'ergon, l'œuvre ou la fonction, est au service du public, si vous voulez, du peuple. Donc, il n'est pas lui-même, si vous voulez, dépositaire de la valeur de sa propre activité. Elle ne vaut, son activité ou son produit ne vaut, que pour autant que d'autres la considèrent comme utile.
Alors, et donc, il y a une dimension
presque servile, dans le fait d'être au service de...
Oui. Mais alors, pardon, on va donner des exemples, puisqu'il y en a eu aussi au début de cette émission, mais un menuisier est plus utile que Jeff Koons en art contemporain. D'un point de vue platonicien, c'est plus important d'être un très bon artisan, un très bon menuisier. Ça a plus de valeur, y compris en termes de rationalité, que d'être Jeff Koons.
Alors, je ne sais pas ce que Platon aurait pensé de Jeff Koons. Je ne sais pas moi-même ce que je pense de Jeff Koons, pour être honnête. Mais je ne suis pas certain, justement. Parce que ce type de technique qu'est la production poétique ou artistique, en un sens, c'est là que se décide le système de valeurs au sein duquel on va vivre, oui. On va exprimer des jugements de valeur et vont se déterminer les fonctions des objets qui vont relever de la technique d'usage. Donc, tu as un autre niveau, l'artiste, ce type d'artisan spécifique qu'est l'artiste, il est peut-être plus dangereux, mais en un sens, il a plus de valeur, c'est-à-dire que, ou alors, enfin, il a plus d'importance politique,
oui.
Pour autant que l'artisan est, du point de vue de la question de la valeur, plutôt dans le sillage de l'artiste, de choses qui se décident au niveau de la production poétique et des effets de cette production poétique sur l'âme, y compris des gens qui sont dépositaires de cette technique d'usage, qui sont aussi éduqués artistiquement d'une certaine façon.
Il n'empêche que un arbre, j'ai pris l'exemple de Jeff Koons, on pourrait prendre n'importe quel peintre de notre histoire moderne occidentale, est situé dans l'imitation. On est d'accord dans les trois catégories, les arts utiles, les arts où il y a un savoir-faire de fabrication, qui peuvent d'ailleurs se recouper, et troisième catégorie, les arts d'imitation. La troisième catégorie est d'emblée plus problématique pour Platon, ça vous le confirmez. Et donc, peindre gratuitement, si j'ose dire, pour la beauté de la chose, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ou alors, non, vous n'êtes pas d'accord pour Platon ?
La question de l'imitation, elle est relativement compliquée chez Platon, dans la République en particulier. Et je pense qu'il faut se fonder, parce que c'est au fond ce à quoi aboutit finalement la réflexion de Platon dans ce livre 10 de la République, où il est à nouveau question de poésie, puisqu'il en avait déjà parlé au livre 2 et 3. Il définit l'imitation au livre 3, c'est clairement sous la forme du jeu d'acteur, en fait.
Oui.
C'est imiter, c'est se rendre semblable à un autre par la voix ou par les gestes, les attitudes. Donc c'est en fait faire ce que fait un acteur, hein, ou un récitateur d'Homère quand il imite tel ou tel personnage qui parle chez Homère.
Le problème de l'imitation, c'est quel... Pardon, c'est dans le texte qui va suivre. Je vous propose qu'on l'écoute, puisque on a un peu coupé le texte. On va juste le prolonger.
Allons-y.
Et là, il semble dire, donc vous allez me dire comment il faut entendre ce qui est annoncé, que le problème de l'imitation, c'est qu'elle peut tromper. J'ai l'impression que cette affaire est dans le cerveau de Platon, mais vous allez nous expliquer. Oui. Voici la suite du texte de La République, livre 10.
Les imitateurs aura-t-il sur la base de l'usage un savoir sur les choses au sujet desquelles il écrit ou peint, l'informant si elles sont belles et correctes ou non ? Ou bien une opinion correcte née d'une relation nécessaire avec celui qui sait, qui lui prescrirait lesquelles d'écrire ou peindre ?
Ni l'un ni l'autre.
Et pourtant, sans aucun doute, il pratiquera l'imitation, alors qu'il ne sait pas à propos de chaque chose à quoi elle doit sa mauvaise ou sa bonne qualité. Mais selon toute apparence, c'est ce qui paraît être beau à la masse de ceux qui ne connaissent rien qui l'imitera.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
C'est ce qui paraît être beau à la masse qui semble impiéter Platon. Je cite là, y a-t-il un risque dans les arts imitatifs ? Mais après tout, c'est la peinture, c'est la poésie, c'est la grande différence avec des arts de fabrication, on produit vraiment quelque chose d'utile si possible. Est-ce que ces arts-là, les premiers imitatifs, sont-ils à cause de ce primat de l'apparence dangereux ?
C'est pas véritablement à cause de ce primat de l'apparence. C'est-à-dire que ce paraît, il est intéressant parce que il montre exactement comment fonctionne le raisonnement critique de Platon à cet endroit-là de la République. En fait, ce qui paraît beau à la masse des spectateurs, du
la masse de ceux qui ne connaissent rien,
ne connaissent rien, voilà.
Dit Platon, enfin Socrate vu par Platon.
Tout à fait. Donc des ignorants, ce sont les opinions et les jugements de valeur, si vous voulez, sans valeur épistémique, de ceux qui sont les destinataires de l'œuvre mimétique, de l'œuvre d'art, pour autant qu'elle est une imitation. Mais ce que dit l'artiste, c'est que ce sont ces spectateurs, c'est ce public, qui sont, entre guillemets, l'équivalent, l'analogue des usagers de l'œuvre d'art, de cette production poétique, au sens artistique du terme. Et donc, c'est... comme l'artisan est sous la direction, sous les ordres de son client, client est roi, hein, oui. C'est vraiment cette idée, le client du peintre ou du poète, ce sont les spectateurs à qui il cherche à plaire. Or, les opinions de ces spectateurs, Platon les pose comme des opinions fausses, c'est-à-dire qui se prennent peut-être pour des savoirs, mais qui n'en sont pas, et... c'est la raison pour laquelle l'imitateur, en fait, n'a pas, pour sa production, une opinion qui est une opinion vraie, parce qu'il est au service de gens qui ne savent pas qui n'ont pas de connaissances sur les attentes qui sont les leurs en matière d'imitation poétique ou picturale. Et donc, c'est au fond la seule nuance qu'il y a entre l'artiste et l'artisan ici. Pour autant que...
Et elle n'est pas en faveur de l'artiste.
Elle n'est pas en faveur de l'artiste.
Du point de vue du jugement de valeur.
On peut aussi se demander ce qui fait qu'on est optimiste du point de vue de l'artisan, puisque ce sont les mêmes ignorants qui, lorsqu'ils utilisent les objets fabriqués par des artisans, seraient censés d'un seul coup être dépositaires d'un savoir d'usage. Donc on peut imaginer qu'il y a une espèce d'ironie ici de Platon, puisqu'il s'agit au fond des mêmes personnes. On ne peut pas être ignorant au théâtre et puis hors du théâtre, d'un seul coup, se révéler savant. Pour Platon, le savant, c'est le philosophe.
Et c'est bien, si j'ai entendu convenablement, ce problème du vrai jugement du philosophe, et qui est aussi le seul à être apte à dire ce qui est utile à la cité, et non pas la masse qui n'y connaît rien, c'est cela qui rend Platon, Fabienne Bagdasarian, si inquiet de ce que nous appelons les arts, alors que les artisanats sont plus solides. Ils ont un savoir plus clair, une utilité plus claire, ils sont moins inquiétants.
Oui, sans doute, il y a un rapport à la connaissance dans le texte qui a été lu. Il revient toujours l'idée que c'est celui qui sait qui et que c'est en fonction du savoir qu'il y a cette hiérarchie entre les arts qui s'établit. Donc l'usager sait quelle doit être la forme de l'objet puisqu'il s'en sert et il transmet cette connaissance au producteur et l'imitateur, lui, ne sait ni l'un ni l'autre. Il ne sait ni comment produire, ni à quoi ça doit servir. Et c'est cette difficulté qui fait de l'imitation quelque chose de totalement fumeux.
Fumeux, vous y allez vider de sa substance, plus à
me semble-t-il. Et qui rend ça sans doute problématique, c'est-à-dire qu'il n'y a de connaissance ni du côté de l'imitateur, ni du côté du récepteur. Cette notion d'imitation chez Aristote, elle est beaucoup plus apaisée, en quelque sorte. Tous les arts sont des imitations. L'art consiste systématiquement à imiter, et il y a une bonne et une mauvaise manière de le faire.
Mais d'une certaine façon, Platon le dirait aussi à un autre niveau. Pour faire une table, il faut avoir l'idée de la table, et lui-même considère qu'il y a de l'imitation dedans. Mais il y a plusieurs sortes d'imitations, peut-on dire?
En tout cas,
Platon, l'une étant plus dangereuse que l'autre.
Sans doute, oui. C'est-à-dire que il est bien dit dans le texte qu'on a écouté que le producteur de la table est quand même en rapport à celui qui sait, il tire de lui son savoir, tandis que celui qui s'appelle ici imitateur n'est en rapport avec personne.
Alors, je vais vous donner un exemple, en tout cas une scène qui peut nous faire réfléchir. Il s'agit du film d'Agnès Merlet, Artemisia, de 1997, qui met en scène l'histoire vraie de la peintre italienne Artemisia Gentileschi, qui vivait au XVIIe siècle, au début du fin XVIe, début XVIIe, et qui a fait ses premières armes en peinture aux côtés de son père. Et écoutez cette scène où elle est encore très jeune, et son père est un artisan, en vérité, qui écoute ce que lui demandent les gens qui passent commande chez lui. Donc c'est vraiment l'idée de l'utile. Et elle, qui va devenir une grande artiste, n'aime pas beaucoup l'idée de l'utile. Écoutez-la.
Tenez. Vous vous êtes surpassé? C'est superbe. Personne n'a autant que vous le sens des couleurs, Gentileschi.
Je suis très honoré.
Je suis d'ailleurs surpris que vous ayez choisi l'argent pour cette armure. Je portais une armure dorée lors de la pose.
Mais ce portrait est idéal, idéal et intemporel, et parfaitement équilibré dans ses couleurs. En outre, l'argent met en valeur votre véritable stature et vous fait apparaître plus grand.
Au fait, il me semble me souvenir que c'est moi-même qui ai suggéré cette modification.
Je ne fais aucun doute. Vos conseils ont toujours été très bénéfiques à mon travail.
Faites-le-moi livrer d'ici à vendredi. Je donne une soirée. Je tiens à ce que cette toile soit présente. Et n'oubliez pas de corriger l'argent pour du doré.
Il parle de la couleur comme s'il s'agissait d'assortir ses bas à sa culotte. Je ne sais même pas ce que c'est la couleur.
Mais pour qui travaillons-nous, ma chérie?
Moi, je peins pour moi.
Et moi, je peins pour ceux qui peuvent s'offrir des toiles. Il n'y a pas que le talent artistique en jeu. N'oublie pas que sous ce doré affreux, il y a notre argent. Notre argent magnifique.
Ce qui plaît à celui qui a passé commande, et ce qui en un sens lui est utile, eh bien la jeune future artiste, Artemisia, considère que ce n'est de loin pas le critère du beau. Et la voici qui, alors que son père lui dit « mais nous ne serions rien sans tous ceux qui nous passent commande », la voilà qui répond « mais il connaît rien celui-là et son talent d'artiste, ça c'est très moderne, qui va se séparer de l'utile ». C'est comme si pour valoriser l'art, il fallait sortir de considérations en quelque sorte artisanales, où en effet on fait attention quand même à l'utilité selon celui qui commande une pièce. C'est vraiment pas du tout grec. Fabienne Bagdasarian, c'est pas grec du tout la façon dont elle raisonne, cette magnifique future peintre très, très reconnue aujourd'hui.
Le caractère mercantile peut-être, mais on a cette idée qui est assez présente chez Aristote et qui est intégrée à une histoire du développement des arts et des sciences, selon laquelle il y a quand même une hiérarchie entre les arts qui peut s'établir en fonction de leur utilité. Et moins ils sont utiles, plus ils sont nobles. Et donc, Aristote, qui croit à un développement progressif du savoir humain, pense que se sont développés d'abord les arts nécessaires à la survie, pour des raisons évidentes, et progressivement des arts qui étaient ce qu'il appelle des arts d'agrément, parce qu'on appelle des arts d'agrément, nos arts artistiques en font partie, et qui ont pu se développer plus tardivement parce que la survie était assurée, mais qui, par leur inutilité, ont davantage de valeur.
Ça, c'est Aristote.
Ça, c'est Aristote.
Alors que tout à l'heure, on est bien d'accord que, pour Platon, ça se discutait davantage. L'utile ne déplaît pas à Platon. Au moins, il y a quelque chose de solide, là. Est-ce que c'est sur ce point, notamment, que les choses se fracturent entre Platon et Aristote ?
Platon serait d'accord en ce que, au sommet de cette hiérarchie de l'inutilité, il y a la science, en quelque sorte, et qui est encore plus inutile en un certain sens, et qui donne davantage de valeur encore. Mais il faudrait le préciser, mais est-ce que l'utilité est ce qui donne sa valeur à un art de fabrication, ou est-ce que c'est son rapport à la connaissance formelle de l'objet qui lui permet d'être utile, parce qu'il est en rapport au savoir de ce que l'objet doit être.
Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Lemaire? Est-ce que quand même, celui qui passe commande chez Platon n'ancre pas la techné, la technique qu'on va utiliser dans quelque chose de rationnel c'est comme si ça rassurait Platon, non?
Encore faut-il savoir qui est celui qui passe commande.
Voilà,
c'est toute
ça,
la question de Platon. Comment a-t-il été éduqué? Par qui? Par quoi? Quelle musique il a écouté quand il était enfant? Qu'est-ce qui le réjouit musicalement, artistiquement? Celui qui passe commande, la qualité de son savoir ou non-savoir, ou non-savoir qui ne se sait pas, elle est dépendante. Elle est révélatrice de la qualité ou pas de l'imitation, parce que c'est lui qui va déterminer, c'est ses goûts et ses opinions qui vont déterminer ce que va faire le poète. Et en même temps, à un autre niveau, c'est le poète qui détermine la qualité de
poète,
cette réception. Le poète au sens de l'artiste, disons l'artiste.
Hein. Alors, maintenant vraiment, Aristote, nous entrons de plein pied dans sa pensée, qui est en partie une réponse à Platon, mais on va quand même pas le réduire uniquement à ce dialogue. Voici un extrait d'Aristote de sa métaphysique.
Pour les humains, la science et l'art résultent de l'expérience, car l'expérience a produit l'art. Comme le dit Bolos, l'inexpérience, le hasard. L'art naît lorsque de nombreuses notions d'expérience résultent une seule conception universelle à propos des cas semblables. En effet, concevoir que, pour qu'Alias, atteint de telles maladies, tel remède est bon. Puis, pour Socrate et pour beaucoup de gens dans le même état, pris un par un, cela relève de l'expérience. Mais concevoir que tel remède est utile à tous ceux qui sont tels, défini selon une seule forme, est malade de telle maladie. Par exemple, les phlegmatiques ou les bilieux qui ont la fièvre du chaosos, maladie aiguë de la médecine hippocratique. Cela relève de l'art. Donc, du point de vue de l'action, on est d'avis que l'expérience ne diffère en rien de l'art. Et même les gens d'expérience réussissent mieux que ceux qui possèdent une définition sans l'expérience. La cause en est que l'expérience est connaissance des singuliers, l'art des universels.
Il faut faire attention parce qu'évidemment l'art, c'est un mot d'origine latine et c'est la techné, en fait, c'est la technique dont parle Aristote.
Absolument.
Oui, oui. Et donc, dans la technique, il met aussi bien des produits artisanaux la médecine.
Bien sûr.
Mais de même, Platon et Aristote considèrent qu'il y a la question de l'art politique que je vais laisser de côté, mais c'est une technique aussi, en tout cas pour une part. Et là, Aristote valorise quoi exactement ?
Ici, Aristote est en train d'essayer de caractériser ce que serait la connaissance par rapport à d'autres états de pensée qui ne seraient pas dignes d'être appelés connaissance. Et donc il prend un binôme, science et art, il essaie de les caractériser, donc ils fonctionnent ensemble, donc l'art est manifestement une connaissance, et il essaie de les caractériser par rapport à ce qui est caractérisé ici comme l'expérience, c'est-à-dire un empirisme, une pratique, une connaissance des cas, de la vie, du monde, des cas particuliers, et qui n'en est encore qu'à une accumulation de cas singuliers qui n'ont pas été ressaisi sous un concept, sous une définition générale, ce qui veut dire qu'on sait, qu'on voit bien que Socrate a de la fièvre, que Callias en a, que Coriscos en a, mais pourquoi en ont-ils et en vertu de quelle atteinte, quelle affection, l'homme d'expérience ne le sait pas. Le médecin, qui est un homme de l'art, on parle bien d'art médical encore, lui le sait. Ce qui est intéressant dans le texte, c'est que Aristote construit quand même une continuité entre l'expérience et l'art, c'est-à-dire que on a entendu au début que l'art naissait de l'expérience. Donc il va quand même falloir beaucoup voir de cas particuliers, beaucoup pratiquer, voir des malades pour progressivement s'apercevoir des points qu'ils ont en commun, comprendre progressivement qu'ils ont qu'ils répondent à une même définition de la maladie, qu'ils sont atteints de la même affection et produire cette définition, cet universel dont il est question à la fin. C'est un mot qui est un peu grandiloquent comme ça, mais qui veut simplement dire une définition.
Avec une capacité à conceptualiser ce qu'est une maladie, ses symptômes, etc.
Exactement.
En partant de l'empirie, disent les philosophes, de l'expérience, dirons-nous en langage plus simple.
Exactement.
Est-ce que là aussi, il n'y a pas une énorme différence avec Platon, pour lequel, oui, le concept et le savoir est fondamental, ce sont des choses fondamentales, mais partir de l'expérience pour y arriver, ce n'est pas le bon chemin ?
Il y a une différence énorme avec Platon, et en fait, le texte qu'on a entendu commence avec une méchante pique contre Platon, puisque on a entendu que l'expérience a produit l'art, comme le dit Polos, écrit Aristote. Polos, c'est un élève de Gorgias, le rhéteur qui apparaît dans le dialogue du Gorgias de Platon. Socrate essaie d'expliquer longuement à Polos qu'il a tort et que l'art ne naît pas de l'expérience, qu'il y a une rupture forte entre l'un et l'autre.
L'art, la techné, quoi.
Ne naît pas de l'expérience que donc sa pratique de la rhétorique ne peut pas être un art, une technique comme il le revendique, puisqu'il ne s'en tient qu'à à la connaissance cumulée de cas particuliers. Et Platon essaie d'établir que, avec de l'expérience, on n'est que dans la routine, dans l'errance, dans la conjecture. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait. Et on n'a pas de capacité à reproduire et à atteindre à coup sûr un but.
Donc Aristote est du côté de l'interlocuteur de Socrate. dans le dialogue de Platon, oui. Et donc...
Il se plaît à renverser les rôles.
Contre la position platonicienne.
Et il essaie de construire ici l'idée qu'une maîtrise rationnelle des processus de production ne peut pas se passer d'une confrontation fréquente avec le concret
sensible individuel. Et l'expérience. Alors, on comprend bien que ça produit encore un autre éloge de ce que nous appelons les artisanats, parce que s'il y a bien des métiers où on le sait, enfin, on apprend de l'expérience, beaucoup, enfin, mais de même, pourrait-on dire, un médecin est meilleur 10, 20 ans après être sorti de son école de médecine, l'expérience l'a aidé à affiner son savoir, et sans doute est-ce la même chose aussi pour plein de métiers d'artisanat, mais qu'est-ce que ça veut dire l'expérience dans les domaines de ce que nous appelons les arts? Est-ce que ça, d'après vous, ça compte aussi? Et est-ce que c'est du même ordre? Est-ce que ça intéresse Aristote? C'est la même chose pour faire une belle poésie, pour faire un joli film, pour écrire une belle musique? L'expérience, ça compte?
Il faut sans doute avoir vécu pour savoir imiter comme le poète doit imiter l'action et les caractères. La poésie est une imitation, la poésie dramatique est une imitation de l'action qui s'appuie sur des caractères humains qui sont mis en scène ne pas avoir suffisamment fréquenté de caractères, ne pas savoir comment les hommes sont, ne pas avoir d'idée de comment ils devraient être, bloque très fortement la capacité imitative. Il y a sans doute quelque chose qui n'est pas vraiment expliqué, qui est la capacité, au plan formel, une inventivité, une souplesse de langage, etc. Et ça, on ne sait pas très bien si ça s'apprend, mais en tout cas, disposer d'une expérience dans la capacité imitative, c'est quelque chose qui est vraisemblablement important. Même si l'imitation poétique n'a pas à reproduire, à être une reproduction, une copie de la réalité. Mais il faut savoir quand même percevoir les traits les plus forts de la réalité pour donner en tant qu'on est un bon poète, une imitation convaincante.
Donc la continuité entre artisanat et art est encore plus claire chez Aristote que chez Platon.
Oui, je pense, parce qu'Aristote est moins inquiet, comme on le disait tout à l'heure, des effets passionnels de l'art, parce que la question de l'inspiration n'apparaît pas clairement, et donc qu'il pense la création poétique dans une forme de particularité, mais dans une continuité assez nette avec la création artisanale.
Il avait pour lui l'art de savoir marcher le long des rues, partout où il allait. Les femmes en lui voyaient l'homme qu'il fallait, mais lui marchait sans les regarder. Il avait pour lui l'art de savoir marcher. Il avait pour lui l'art de savoir parler, les mots sortaient dans un joli phrasé. Les femmes en lui voyaient l'homme qu'il fallait, mais lui parlait, elles écoutaient. Il avait pour lui l'art de savoir parler, ouais. Il avait pour lui l'art de savoir danser, et dans ses bras, lorsque l'on s'y trouvait, les femmes en lui voyaient l'homme qu'elles aimaient, mais lui dansait sans y penser. Il avait pour lui l'art de savoir danser. Il avait pour lui l'art de savoir danser. Moi j'avais pour moi l'art de savoir snober. Voilà pourquoi quand on m'a présenté, cet homme a vu ma supériorité, et dans mes bras il est tombé. Car j'avais pour moi l'art de savoir snober.
Et c'est la talentueuse Ginette Garcin que vous entendez, elle qui a été l'interprète jeune de plein de gens, notamment des premiers spectacle de Bobby Lapointe. Elle chante ici l'art de savoir en 1966. L'art, c'est partout, c'est dans la façon de marcher, c'est dans le talent ordinaire, dans les arts, dans l'artisanat et dans la vie de tous les jours. Merci beaucoup Fabienne Baghdassarian, Nicolas Lemerer, vous avez bien éclairé pour nous le problème de la notion de technique chez les Grecs, qui est leur mot pour dire artisanat, art, etc. Je vous propose d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse au pouvoir des fables. Voici le pourquoi du comment.
Comment la fable peut-elle être morale? Nous sommes habitués, à travers la lecture, l'apprentissage, si possible par cœur d'ailleurs, des fables de La Fontaine, nous sommes habitués donc à ce qu'elles se terminent par ce qu'on appelle une morale ou une moralité, parce qu'elles enseignent en effet quelque chose aux humains de l'ordre des principes moraux et même des principes politiques. Ainsi, par exemple, le loup et l'agneau, cette fable extraordinaire, commence-t-il par une morale ironique ou plutôt par dénoncer un danger moral que la fable vient en effet nous exposer dans sa radicalité et qui est aussi un danger politique. Je cite le début de cette fable, la dixième du livre 1, fable de La Fontaine 1, 10, vers 1 et 2. « La raison du plus fort est toujours la meilleure ». Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait, etc. L'agneau a beau se défendre devant la force du loup, il a beau invoquer des arguments de justice pour échapper à être dévoré, le loup n'entend rien à l'affaire, tout aucun argument ne vaut. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère, je n'en ai point, c'est donc quelqu'un des tiens, on me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Ainsi, la fable nous montre comment la justice est un leurre. Ce qui compte entre les vivants, c'est d'abord la force brute. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Le loup mange l'agneau. La fable est morale en nous montrant l'immoralité, en nous montrant le danger de l'immoralité dans la vie des animaux, peut-être, mais surtout des humains, morale et politique, puisque la raison du plus fort, c'est aussi le pouvoir de la force entre les sociétés ou dans une société. C'est donc un danger politique. La fable serait donc morale en nous montrant les dangers de l'immoralité. C'est un art de la fable qui consiste à ne pas nous entraîner vers un simple secours vital, comme le pensait Bergson, qui pensait que la fabulation était d'abord un soutien des êtres humains dans leur combat contre la peur. On nous raconte des récits pour nous rassurer, oui, mais pas n'importe comment, en nous enseignant une morale fondamentale, en nous montrant les dangers d'une immoralité qui nous menace de l'intérieur. Bien sûr, en nous montrant cette immoralité, elle court aussi le risque, la fable, de nous la rendre séduisante. Nous avons envie un peu d'être le loup, nous avons envie d'être la fourmi et pas seulement la cigale, la fourmi qui n'est pas prêteuse. Nous avons envie d'être le méchant et pas seulement le gentil. C'est ce que Jean-Jacques Rousseau reprochait à La Fontaine et il interdisait à son élève dans l'Émile de lire les fables parce que, disait-il, ils introduisent dans l'esprit de l'enfant tous les dangers des êtres humains. Mais justement, l'art de La Fontaine, c'est de comprendre que les fables nous enseignent d'abord la méchanceté des hommes et doivent nous apprendre à y survivre. Aujourd'hui, nous avons besoin de fables pour échapper à la raison du plus fort. Même les risques les plus terribles du moment, même les guerres, trouvent aujourd'hui des fabulistes les plus simples. Il y a des récits depuis longtemps très simples et très profonds qui essayent de dominer les peurs, les conflits et les guerres, par exemple jusqu'en Palestine et à Gaza. Il y en a, j'allais dire, des deux côtés, en tout cas qui nous ramènent à la fable commune des humains face à les dangers qui le menacent. La nécessité d'aujourd'hui, c'est de pouvoir raconter le monde à nouveau d'une manière morale face à tout ce qui le menace de l'intérieur.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger et Riyad Kera avec à la technique Nicolas Leroulé. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Nassim El-Kabli, Corinne Amar et Victoire Mellet. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.